je suis plus sur caratelle renforcée. Je suis libre de tout maintenant.
D'accord. Bon.
J'ai récupéré mon esprit.
Mais très bien. Vous allez mieux, donc. Ah, on a considéré mieux, que... Oui, ouais, c'est bien de le dire, parce que c'est vrai qu'on peut sortir d'une curatelle. Vous reprenez en main, peu à peu.
Non, moi, j'ai
les histoires de curatelle, vous savez, c'est pas de mon ressort, hein, Michel. Hein, tant mieux, vous en êtes sorti. Donc, vous allez me dire après les infos où vous en êtes aujourd'hui et peut-être quels sont vos projets. D'accord ? Ne raccrochez pas, à tout de suite.
À tout de suite, Caroline, merci.
RTL. Merci d'écouter RTL. Il est 23h. Les infos qui comptent, c'est avec vous, Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. On l'apprend ce soir, les airbags défectueux Takata ont fait un deuxième mort en France, à Reims, le 11 juin dernier. Une mère de famille âgée d'une quarantaine d'années qui roulait à bord d'une Citroën C3. Une adolescente de 14 ans, également dans le véhicule, a été blessée. Ces airbags défectueux sont bien connus. Le gaz qui se dégrade mal fait exploser l'airbag et projette de petites pièces métalliques au visage du conducteur. Ils ont provoqué 29 accidents, dont 11 décès dans les Outre-mer. Les sirènes d'alerte ont retenti ce soir à Tel Aviv après l'annonce par la télévision d'État iranienne d'une nouvelle salve de missiles sur Israël. À l'instant, l'Iran promet des frappes sans interruption jusqu'à l'aube, au quatrième jour de l'escalade militaire entre les deux pays. À Téhéran, 3 secouristes ont été tués dans une frappe israélienne, d'après le Croissant Rouge. Premier ministre Benjamin Netanyahou estime changer la face du Moyen-Orient dans cette escalade et promet d'éliminer un par un les membres du commandement militaire, y compris l'ayatollah Khamenei à la tête du régime.
Ça ne va pas faire d'escalade dans le conflit, cela va résoudre le conflit. Ça fait près d'un demi-siècle qu'on a eu ce conflit à cause de ce régime qui a terrorisé tout le monde au Moyen-Orient, qui a bombardé l'Irak, a détruit les sites pétroliers en Arabie Saoudite et répandu le terrorisme. La guerre éternelle est ce que veut l'Iran et qui nous amène au bord de la guerre nucléaire. Et ce que fait Israël, c'est empêcher cela en mettant fin à cette agression.
Benjamin Netanyahou chez nos confrères de ABC. Notez qu'en 4 jours, on compte plus de 224 morts côté iranien, 24 côté israélien. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au maire de Nice de retirer le drapeau israélien du fronton de la mairie au nom du principe de neutralité. Christian Estrosi l'avait installé après les attaques du 7 octobre 2023 et avait promis de le laisser là tant qu'il resterait des otages du Hamas à Gaza. La préfecture prépare une circulaire pour tous les maires du département, les obligeant à retirer tout drapeau étranger, quel qu'il soit, dans les mairies. La météo, demain, le temps sera très ensoleillé sur toute la France, avec un risque d'averse tout de même sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief Corse. En fin de journée, le Mistral va faiblir dans la vallée du Rhône. Les températures, le matin, comptez de 11 à 14 degrés en général, de 15 à 20 près de la Méditerranée. L'après-midi, vous aurez 19 degrés pour la minimale près des bords de Manche, 23 degrés à Brest, 28 à Paris, 29 à Montélimar, 31 à Bordeaux, 32 degrés à Perpignan pour la maximale. Et puis les courses demain à Nantes, les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 3, le 16, le 2, le 10, le 12, le 7. Et l'outsider de RTL, c'est le 10, Septimus. RTL, il est 23h03, tout de suite parlons-nous, continue avec vous Caroline Dublanche.
Merci beaucoup Aude, on vous retrouve bien sûr à minuit.
Sans faute, à tout à l'heure.
Alors à tout à l'heure.
RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'ai accouché à la maison, en pleine campagne, grâce à l'appui du SMUR et les ambulanciers.
Moi, je suis militaire, j'ai été blessé en opération. Comment vous expliquer que quand on est blessé, on nous insulte bon à rien, on nous pousse à quitter l'institution.
Je suis contre la suppression de l'espèce. Est-ce vraiment pour enrayer le trafic de la drogue ou pour mieux contrôler tous les Français ?
Vous aussi, vous souhaitez partager votre point de vue sur un sujet d'actualité ? Vous êtes au bon endroit. Tous les jours à 13h, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Après la découverte du feu qui a changé le cours de l'humanité, après la création de l'ampoule électrique et l'invention du télescope, voici probablement la plus grande innovation qui a changé la vie des patrons de PME.
Avec Onto, vous fixez des plafonds mensuels pour chaque carte.
Vous êtes notifié en temps réel des dépenses de vos équipes et vous validez leurs demandes en un clic. En bref, vous faites gagner à votre équipe finance jusqu'à 2 heures par semaine en moyenne. Et ça, ça change la vie. Conto. Total Economic Impact, réalisé pour Conto par Forrester Consulting 2025.
22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Merci de nous rejoindre sur RTL. C'est la suite de Parlons-nous de 22h à minuit et demi. On prend le temps de se parler, de mettre des mots sur les sentiments, les émotions peut-être qui débordent sur vos pensées. Parler pour s'alléger, s'apaiser et, nous l'espérons, repartir le cœur plus léger. C'est ce que nous vous proposons chaque soir. Alors n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 si vous ressentez le besoin de me parler d'une situation qui vous préoccupe. Tous vos appels sont les bienvenus et vos réactions aussi par SMS avec les trois lettres RTL au début de votre message que vous envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. On vous lit aussi sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Alors on vous retrouve, Michel, merci d'avoir patienté. Alors vous dites qu'il y a un an, vous avez fait une rencontre en ligne, vous aviez cru rencontrer l'amour, la perle rare, et puis ça a été une descente aux enfers, puisque après avoir travaillé 26 ans dans une société de transport, pour cette femme, vous avez tout laissé, vous avez quitté votre région et vous vous êtes installé avec elle. Mais voilà, cette femme avait un grave problème d'alcool, puisque dès le matin, dès son réveil, elle commençait avec de la bière, puis des vins rosés, du muscadet, enfin bon. Et toute la journée, au point que vous ne mangiez plus rien, en fait. Tout tournait autour de l'alcool. Et petit à petit, ça a été une longue chute. Au point que vous avez été hospitalisé pendant presque un an en psychiatrie. Vous êtes sorti aujourd'hui. Vous aviez été placé en curatelle renforcée. Aujourd'hui, la curatelle est levée, puisque c'est un bon signe que vous allez mieux. Et j'imagine que vous essayez un peu de vous reconstruire et peut-être je vous demandais, oui, quels étaient un peu vos projets dans l'immédiat ?
Au jour d'aujourd'hui, maintenant, j'ai repassé ma visite médicale du permis de conduire. Je me suis financé moi-même la FCO de marchandises pour transporter de la marchandise, qui est obligatoire. J'ai travaillé pour les boîtes d'intérim, je travaillais la nuit. J'ai passé ma passerelle voyageur pour faire les bus, parce que je pensais faire du transport de bus, du scolaire.
Du scolaire
à mi-temps. Oui, à mi-temps.
Il faut que vous soyez vraiment... Parce qu'ils recherchent beaucoup dans ce domaine, mais il faut vraiment que vous soyez... voyez, parce qu'ils ont renforcé... À juste titre, la vigilance, parce qu'il y a eu suite aux accidents. Enfin, il faut vraiment. Même les médicaments, si vous prenez des médicaments, ça peut être embêtant pour la vigilance.
Ah oui, non, mais je ne prends plus rien.
Je ne prends plus rien
depuis. Ça fait plus d'un an.
Même pour dormir, même.
Ah non, je ne prends même plus de. Je ne prends même plus de somnifères pour dormir. Rien, plus rien. Maintenant, je dors comme un bébé. Je me couche à. J'écoute RTL, mais quand je dors, j'ai mon
d'accord. Contact de sommeil. Tant mieux, vous avez retrouvé une qualité de sommeil.
Franchement, je suis bien, puis je me trouve même physiquement, je me trouve mieux.
Ben, certainement.
Quand j'étais sur antidépresseur, j'étais gonflé, j'étais bouffi.
Puis il y a l'alcool aussi, hein, ça met un peu de temps.
Hein. Et oui. Et puis quand j'ai arrêté les médicaments moi-même, à l'hôpital.
Oui, je comprends.
Je me suis regardé.
Ah oui, donc vraiment, vous avez fait un sacré chemin.
J'ai dit stop, faut que j'arrête tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, ben, je suis content de moi parce que j'ai repassé tout ce qu'il fallait. J'ai récupéré mon permis. Maintenant, j'ai travaillé pour les boîtes d'intérimaires, les boîtes d'intérim. Et au jour d'aujourd'hui, je suis content parce que ça fait 4 semaines que j'ai trouvé un transporteur qui m'a fait un CDI.
Formidable.
J'ai expliqué tout à la dame, à la patronne, j'ai tout expliqué ma situation.
Ah, vous lui avez parlé de votre histoire?
Ah oui, j'ai dit, parce qu'elle m'a dit, parce que j'avais postulé par l'intermédiaire de France Travail, donc je lui ai envoyé mon CV, et quand elle a vu mon CV, aussitôt elle m'a appelé. C'est là qu'elle m'a posé la question, mais monsieur, 26 ans dans la société, pourquoi vous êtes parti? J'ai expliqué le problème, quoi. J'ai tout dit, voilà. Et donc, par téléphone, elle m'a dit, bon, vous embaucherez à telle date, voilà. Donc, j'ai été, il y a un chauffeur qui m'a récupéré sur Bordeaux, qui m'a emmené dans la ville pour le transporteur où je travaille.
Oui.
J'ai récupéré l'ensemble, le camion, et maintenant je fais ma vie.
Vous avez commencé quand?
Et j'ai commencé le 27.
Le 27 mai?
Oui.
Ah, d'accord. Alors, c'est un nouveau départ, là. Ça doit vous faire du bien de retravailler.
Vous savez, Caroline, de reprendre le chemin du travail.
Oui.
C'est la plus belle chose qui peut.
Oui. Mais oui.
Franchement, non, c'est la plus belle chose qui. Ouais. Je suis content.
Mais oui, mais vous pouvez, parce que vraiment, et comme quoi ça valait le coup, cette hospitalisation, vous avez fait du bon travail, hein. Vous avez été volontaire aussi.
Oui. Ouais. Parce que j'étais revoir le psychiatre qui m'avait hospitalisé, dans les Landes. J'ai dit au docteur, va se rappeler de moi. Vous vous rappelez? Elle me dit oui, monsieur, je me rappelle bien. Vous savez, hein, la personne que quand j'étais venu, j'ai expliqué que cette personne-là, c'est elle qui m'avait mis dans cette situation-là, dans l'alcool, tout ça. Et j'ai tout expliqué. Et puis maintenant pour moi, tout va bien. Maintenant, je vais bien. Ouais.
Eh ben écoutez, voilà.
Je suis content de moi, de tous les efforts que j'ai faits.
Vous pouvez, parce que il a fallu. Ça a été vraiment une chute, mais vous avez avec cette rencontre qui aurait pu vous être fatale, mais à force de volonté, vous en êtes sorti.
J'étais rendu à un point. Vraiment, où j'avais plus rien.
Mais vous voyez, votre parcours, ça montre aussi, Michel, parfois on parle de la psychiatrie pas toujours de façon constructive ou des hospitalisations qui sont redoutées et ça montre à quel point c'est un lieu de soins. Les psychiatres, les hôpitaux psychiatriques, bien sûr, malheureusement, ça fait peur. Mais c'est vraiment combien de personnes j'ai entendu qui à un moment avaient vraiment vacillé, s'étaient effondrées et qui, grâce à un parcours de soins, grâce à une hospitalisation, grâce à une équipe qui les a prises en charge et aussi bien sûr à leur volonté, hein, parce que sans ça on peut rien faire, eh bien ont pu remonter la pente et reprendre le cours de leur vie. Et votre témoignage en témoigne aussi. Vous avez accepté ça, l'aide.
Oui. Et puis pour moi, ma deuxième hospitalisation où je suis resté plus longtemps, j'étais content. Au moins, ça m'a aidé.
Mais oui.
Ça m'a aidé à décrocher de parce que
de l'alcool.
J'étais devenu alcoolique, quoi.
Mais oui,
tous les jours. Et en plus avec les cachets. Sinon, c'est un an là. eh ben.
Ah ben vous vous seriez tué à petit feu.
Là.
Oui.
Ah ben je serais. Ah oui oui oui. Ah ben oui je serais.
Oui alors qu'aujourd'hui, eh bien voilà, vous venez de signer un CDI, vous avez recommencé à travailler le 27 mai. C'est un nouveau départ et voilà. Vraiment je vous souhaite la route la plus belle possible et que vous continuiez comme ça et que vous soyez heureux. Et que vous continuiez à prendre soin de vous, Michel, bon, surtout.
Ouais,
vraiment, plein de bonnes choses. Ah, Paul me fait signe qu'il y a des messages qui sont arrivés pour vous, on les écoute.
Oui, alors, il y a toujours le même terme qui revient, vous allez voir, il y a Jean qui dit cette femme avait quand même un drôle de pouvoir sur vous jusqu'à vous pousser à l'alcool. Vous deviez être déjà potentiellement fatigué avant de tout plaquer pour elle, mais je crois que ça arrive à beaucoup d'entre nous de nous laisser entraîner par une femme sans vraiment comprendre. Courage, faites attention à vous, vous avez l'air tenace et déterminé. C'est ce que dit Jeanne-Marie aussi, bravo, vous savez ce que vous voulez, continuez comme ça, vous pouvez être fier de vous. Bob White aussi qui dit votre parcours vous honore, vous pouvez être fier de vous, vous avez combattu vos échecs, bravo. Et puis aussi Marie-Laure qui voulait vous féliciter sur le répondeur au 09 69 39 10 11 qui dit voilà, je voulais vous féliciter, vous avez su vous en sortir malgré tous les ennuis que vous avez eus et vous vous en sortez très bien, félicitations.
Yeah. Allez, c'est le premier jour du reste de votre vie, Michel.
C'est ça, Caroline. Mais je vous écoute tous les soirs, puis je trouve votre votre émission formidable. J'écoute RTL depuis quand mon papa faisait le Moyen-Orient avec Max Meunier. C'était la belle époque quand on
oui.
Les routiers du Moyen-Orient. Il y avait un problème.
Il faisait le Moyen-Orient, votre papa?
Ouais, 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 c'est le Moyen-Orient.
Ah ouais, il était routier lui aussi.
Aussi, ouais, il était routier.
Bon, on a une pensée pour lui.
Ouais, c'est en 75.
En 75, donc il a dû vous faire rêver avec tous ces...
Bah, j'ai fait un tour de Moyen-Orient, il m'avait emmené pendant un mois avec lui en camion.
Waouh, vous aviez quel âge?
J'avais 14 ans.
Oh là là, bah oui, ça s'est gravé à jamais.
Ouais, mais non, c'est des bons souvenirs.
Il a su que vous faisiez le même métier, que vous aussi, vous alliez être routier.
Mon papa?
Oui.
Eh bien, c'est lui qui m'a mis dedans.
Eh bien, je me doute.
Quand j'ai commencé le transport, c'est lui qui me faisait le radio guidage par téléphone. Parce que je partais en Italie, et je l'appelais, papa, je suis là, je l'appelais tout le temps dans la nuit. Ah oui, c'est...
Il devait être fier.
Ah, oh, je suis fier de mon papa, ouais, c'est clair. Ouais. Puis ma maman aussi, ouais, non.
Eux aussi, ils doivent être fiers de vous.
Ouais, ouais. J'aimerais bien qu'ils. Je pense que d'où qu'ils sont, ils peuvent être.
Vous les avez perdus.
Ouais. Ouais, ma maman en 2000 et puis mon papa en 2009. Ouais.
Ah oui, c'est là aussi, ça. Oui, ça a été un immense chagrin. Vous êtes senti, c'est là où vous dites sans attache et. C'est ce que dit Jean. Il y a des moments dans la vie où on est particulièrement fragile et vulnérable et à ce moment-là, on peut faire sur le plan sentimental parce qu'on va pas bien faire des mauvaises rencontres qui peuvent nous entraîner très bas. Mais il y a chez vous un instinct de survie, hein. Et certainement cet héritage aussi, cet amour dans la façon dont vous nous parlez de vos parents et tout ce qu'ils vous ont transmis qui est une force. Et ça, vous l'avez en vous.
C'est ça.
Il y a Cathy, elle est à Paris, elle dit mais bravo Michel, quel parcours, quelle volonté pour rebondir à ce point après avoir touché le fond. Continuez à prendre soin de vous et faites attention à vos rencontres. Hein. Elle a raison,
non.
Cathy.
Non, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Pour le moment. Hein.
Non, c'est pas bon pour moi.
Vous verrez, il y a heureusement des belles rencontres. Mais pour le moment, déjà, vous avez retrouvé un boulot, c'est super, de la stabilité. Paul, un petit message.
Et puis le valet de cœur qui dit, il faut pas oublier que le métier de conducteur routier, c'est un métier très solitaire, donc surtout quand on va mal.
C'est vrai.
Donc ça souligne encore plus votre mérite, Michel.
Il a raison. Il a raison et on pense, c'était Anthony qui nous avait appelé dans les restos routiers, la fête avec les copains, la famille finalement qu'on se trouve, mais qui peut aussi pousser malheureusement à une consommation excessive. Et c'est vrai, c'est un métier solitaire et quand vous êtes au volant comme ça, vous avez de quoi cogiter. Vous êtes allé à nouveau reparti. On vous souhaite vraiment le meilleur, mon cher Michel, et on est ravis de savoir qu'on vous accompagne sur la route.
J'adore RTL, franchement, c'est ma radio.
Mais ça nous touche. Ouais, ça nous touche.
Voilà.
Merci. Eh ben, écoutez, merci de nous être fidèles. Je vous embrasse bien fort.
Merci Caroline. Et puis votre émission, elle est superbe. Franchement,
c'est gentil. Oh, ben c'est gentil. Merci. Au revoir, Michel.
Le coup de la peine dorée, le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté, de beauté. Ça valait le coup d'en finir, il y en a même certains que ça fera rire, et d'autres bien emmerdés, bien parfumés, de noir habillé, belle persole fumée. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler. De linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui sert encore confondé, voie de départ et voie d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler.
C'est le tout nouveau Benjamin Biolay que vous venez d'écouter sur RTL et qui s'appelle « Juste avant de tomber ». Benjamin Biolay revient avec un 11e album déjà, appelé « Disque bleu ». Ce sera un double album, hein, 24 titres, qui sortira en octobre 2025.
Laurent Deutsch sur RTL. Entrez dans l'histoire.
Demain, cap sur le Moyen-Orient avec un homme qui a fait de la reconnaissance de la Palestine son combat, Yasser Arafat. Un leader tiraillé entre la guerre et la paix, c'est demain à 15h d'Entrez dans l'histoire sur RTL.
Entrez dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France.
22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Sarah.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue sur l'antenne.
Merci, c'est gentil. Je vais essayer d'être brève et concise pour laisser la place à d'autres.
Ah bah attendez, vous, c'est gentil de penser aux autres, mais bah, vous avez toute votre place, hein, Sarah.
D'accord. Bah, je vais mettre des sous de côté pour Benjamin Biolay.
Ah, Benjamin Biolay, vous l'aimez beaucoup ?
Ah, j'adore.
Oui, oui, oui. Mmh. Bah, écoutez, vous avez le temps d'ici octobre.
Il a une voix suave et sensuelle.
Oui, c'est vrai. Et puis, de très beaux textes. Et puis, c'est vrai. Il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
On vous le fera offrir pour votre anniversaire ou pour... voilà.
Ah bah c'est bientôt, c'est la semaine prochaine.
Eh ben alors justement, non vous pourrez pas, puisque ça sort son album le 25 octobre, vous direz voilà, vous saurez quoi m'offrir en octobre.
Exactement. Ok, alors je vous appelle parce que il y a 2 ans, j'ai perdu un ami, on va dire un frère, un petit frère, infirmier de métier, et j'arrive pas à m'en remettre. J'ai toujours pas absorbé le deuil. Et ça me perturbe tellement parce que il s'est suicidé le 14 février il y a 2 ans. Et on avait rendez-vous, c'était un mardi, et on avait rendez-vous le vendredi pour qu'il me remette les clés de son appartement qu'il voulait vendre au profit parce qu'il voulait en fait s'occuper de son père, qui lui-même était veuf depuis 2 ans et qu'il n'arrivait pas à se remettre du départ de sa femme.
Qui était la mère de ce monsieur de...
C'est ça, fils unique.
D'accord. Et donc déjà, il était en deuil lui-même, votre ami, de sa mère.
Oui, c'est ça. Et je ne l'ai pas vu venir en fait. L'histoire, c'est qu'on était confidents mutuellement et il nous arrivait d'avoir un coup de blues. On s'appelait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Oui.
Et je ne l'ai pas vu venir. Et je culpabilise énormément parce que je me demande ce que j'aurais dû faire ou pas faire. Je ne sais pas. J'arrive pas. J'ai pas de réponse. Et j'en suis arrivée à un stade où la dépression prend de plus en plus de place. Et là, depuis un mois, j'arrive plus à manger.
Oui.
Et j'ai perdu 10 kilos en un mois.
Oui, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que je perds des forces.
Mais oui. C'est important que vous voyez quelqu'un, là. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Parce que...
Alors, justement, il y a une défaillance au niveau des psys.
Oui.
J'ai appelé 10 psychiatres la semaine dernière et ils sont saturés, ils ne prennent pas de nouveaux patients. Alors, je suis en train de me demander si je ne devrais pas faire un tour à l'hôpital, mais je n'ai pas envie d'y rester non plus, parce que j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de... Voilà.
Mais est-ce que vous avez déjà un médecin traitant à qui...
Oui, j'ai un médecin traitant, mais c'est lui qui m'a donné la liste des médecins.
Ah oui, d'accord, vous lui en avez parlé, que vous étiez mal, d'accord.
Oui, mais il n'est pas de la région, donc il ne connaît pas...
D'accord.
Non, il vient des Vosges. Moi, je suis en Alsace.
Oui. Et les 10 psychiatres ne prennent pas de nouveaux patients.
Non. Et j'ai fait un tour au CMP aussi.
Oui.
Mais le problème, c'est que je dirais, c'est mise ordonnance, en fait. Elle n'a pas le temps, elle est débordée. Elle m'accorde 10 minutes, un quart d'heure et je la vois tous les 3 mois. Et là, j'ai un besoin urgent, parce que j'ai pas envie de descendre encore plus bas. Moi,
Non. Mais peut-être que, comme vous dites, vous pourriez, être hospitalisé. C'est le temps de reprendre un peu des forces.
Mm-hmm.
Ça peut être, être hospitalisé une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours, ou au moins là vous auriez...
Non,
vous avez déjà un traitement, si je comprends bien, par la psychiatre du CMP.
C'est ça, j'ai un antidépresseur et un anti... pour les angoisses.
Pour les, oui. Mais là, vous dites que depuis un mois, vous n'arrivez plus à vous alimenter.
Non, j'arrive plus. Je fais le tour 10 fois dans le magasin. Je sais pas quoi acheter pour manger. J'ai péri quelque part. Et là, je.
Oui, vous pouvez pas rester comme ça.
Non, je peux pas parce que je suis quelqu'un de très vital, très solaire. Pleine d'énergie, voilà. Donc,
mais vous êtes trop angoissée, en fait, là, pour...
Ah non, mais ça me torture.
C'est ça, ça vous ronge.
Ça me ronge.
Ça vous torture, c'est-à-dire que c'est le suicide de votre ami, donc,
ah et oui,
de,
oui, j'arrive
de vous vous torturer, à vous demander ce que vous auriez pu faire, c'est la culpabilité qui vous ronge.
Oui, tout à fait. Ouais. Parce que, on était proches, très très proches,
oui,
et
oui.
Je vous dis... Il nous arrivait d'avoir un entretien même tard le soir. Et
oui.
Quand il avait les blues, moi, ça m'arrivait aussi, mais moins que lui.
Il avait souvent le blues ?
Ben, il était bipolaire.
Ah oui.
Il était bipolaire et infirmier en plus. Et je ne sais pas ce qu'il a pris, mais il a pris ce qu'il fallait pour partir.
Mmh.
Dans son métier, c'était plus
malheureusement, facile. Oui, il avait... Oui, donc, il était dans une phase certainement très sombre.
Certainement très sombre, oui. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu me déranger, je ne sais pas. Moi, j'étais en destin, en tout
peut-être
cas.
Peut-être qu'il était déterminé. Hein.
Oui, je pense.
Aussi. Vous voyez, parce que quand vous dites vendre l'appartement, rejoindre, s'occuper de son père, peut-être que la vente de cet appartement, enfin, il y avait peut-être quelque chose de...
Ben, en quittant l'Alsace, il se serait retrouvé en Normandie.
Ouais.
Son père, très âgé, 85 ans, et... Pareil, dépressif grave.
Oui.
Donc, il était prêt à rejoindre son père, ne serait-ce que pour un an ou deux, le temps qu'il se refasse un peu. Mais je savais que quitter l'Alsace, pour lui, ça posait problème, parce qu'il avait tout son entourage.
Oui, peut-être qu'il avait l'impression... Enfin, qu'il était accablé par, déjà... cette situation où il se devait de prendre soin de son père, mais où en même temps, il y avait certainement, et puis il y avait malheureusement ces troubles bipolaires derrière qui ont pu déclencher.
En plus, j'ai appris par son père, parce qu'on était en contact aussi, j'ai appris que quand ils allaient sur la tombe de la maman, ils disaient « le prochain, c'est moi ». Il y avait parfois des moments troubles noirs, quoi. Mais je le connaissais depuis 15 ans. Et...
Oui, vous vous étiez en quelque sorte habitué, entre guillemets, au fait qu'il y avait des moments où il n'était pas bien, mais pour autant, il n'avait jamais eu de
gestes. Il ne m'en a jamais parlé.
Oui, vous en avez jamais parlé. Voilà.
Non, il ne m'en a jamais parlé.
Parce qu'il avait pu avoir. Oui.
Ça a été brutal. Hein,
Oui, vous saviez, c'est ça. Donc, mais vous ne pouviez pas imaginer cette issue. Oui.
Non, alors pas du tout.
Pas du tout.
Et j'en avais un peu fait mon frère parce que.
Oui. Bon, moi, vous parlez d'un petit frère, oui.
Oui, c'est ça. On avait quelques années d'écart. Et
oui.
Mais, en fait, toute ma vie, j'ai essayé dans mon entourage à reconstituer un petit peu la famille que j'ai pas eue.
Oui.
Parce que j'ai grandi en orphelinat.
Ah oui, d'accord. Et comment, à quel âge vous vous êtes retrouvée en orphelinat?
À 7 jours.
D'accord. Oui, nourrisson, quoi, nouveau-né.
Oui, nouveau-né.
Oui.
Je pense que j'étais pas la bienvenue et ma mère devait avoir des problèmes graves.
D'accord. Donc vous êtes restée dans cet orphelinat à l'époque, c'est ça, on parlait d'orphelinat, hein, c'était jusqu'à vos 18 ans?
19.
D'accord. Oui.
J'ai eu la chance, en cherchant du boulot, de trouver une dame qui était veuve dans une maison de maître. Et elle m'avait embauchée au départ comme femme de ménage. Et puis elle m'a complètement formée. Elle m'a payé le permis de conduire. Parce qu'elle vendait en gros du beurre, des œufs et du fromage au restaurateur.
Ah oui, d'accord.
Donc au fur et à mesure, je prenais les commandes.
Oui.
Une fois que je maîtrisais ça, elle m'a payé le permis de conduire pour que je fasse les livraisons quand elle n'était pas bien, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir.
Oui, elle vous aimait bien, certainement.
Oui, mais le problème, c'est qu'au bout de 4 ans, je suis partie parce qu'elle m'étouffait. En fait, elle m'empêchait de sortir. J'ai pas connu le cinéma avant 23 ans. Elle ne voulait que pour elle.
Ah oui, elle vivait seule, cette dame.
Oui, oui, elle était veuve.
Ah oui, donc c'était... Oui, elle avait besoin, elle a fait un transfert sur vous.
Oui, elle a fait un transfert parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant.
Oui, alors vous, tout d'un coup, ayant grandi dans une structure sans famille, et vous retrouvez avec quelqu'un qui tenait lieu un peu de mère, mais mère un peu étouffante, quoi.
Ah oui, mais complètement.
Oui,
moi,
oui.
Ça m'a embêté de la quitter parce que j'étais attachée à elle aussi, mais...
Oui, mais bon... Vous aviez besoin de...
J'avais besoin de voler de mes propres
Bien dettes. Sûr. Et vous dites, finalement, vous avez passé votre vie à vous chercher, à vous construire une famille.
Oui,
à travers
c'est
vos ça. Amitiés.
C'est ça.
Oui.
C'est ça.
Et ce monsieur en faisait partie.
Ben oui. Je l'ai rencontré il y a 15 ans. C'était au karaoké et il était avec sa fille qui avait 18 ans et il la laissait pas sortir seule parce qu'il voulait pas qu'il lui arrive quelque chose.
Oui.
Donc voilà.
Donc vous lui avez dit peut-être vous êtes revue vous à 23 ans étouffant un peu qu'il fallait qu'il abrite pas trop non plus.
Je lui ai suggéré de laisser un petit peu de l'aise.
Oui.
Parce que,
oui.
Voilà, elle a besoin de vivre sa vie quoi. Mais enfin, c'était un papa poule.
Oui, oui. Ouais.
Et ils avaient, en fait, c'était des jumelles et il les a récupérées à 12 ans.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
Donc, faire un tour à l'hôpital, ouais, mais moi, je préférerais y aller, voir un psy et avoir un traitement peut-être plus efficace.
Bah, c'est ce que, peut-être, qu'il y a cette possibilité-là.
Sans hospitalisation. Parce que je ne supporte pas d'être enfermée. Et en psy, on est souvent enfermée.
Ça vous renvoie à l'enfance, à l'orphelinat, aux structures.
En plus, bon, à 4 ans, j'étais victime de l'Église, de 4 à 8 ans. C'était pas drôle, quoi.
Vous avez été victime, j'ai pas entendu.
De l'Église.
De l'Église ?
D'un prêtre.
Hein. Mais c'était un orphelinat, c'était un établissement religieux ?
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'était des franciscains. Bon, c'était que des religieuses, mais on avait un prêtre qui venait le week-end.
Oui.
Voilà, donc ça m'a gâché ma vie d'ailleurs, parce que sur le plan intime, j'ai jamais réussi à faire quelque chose de bien. Mais bon, allez, c'est passé. J'essaye de combler avec mon boulot. C'est vrai qu'après ça, je me suis installée en Alsace et j'ai eu la chance de faire les radios libres.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Parce que vous parlez de votre boulot, c'est-à-dire c'est les radios libres, c'est en plus où vous avez été à un moment animatrice.
J'avais quitté cette dame et j'ai travaillé au journal à l'hebdo.
Oui.
Et le journal a créé sa radio, donc on était une radio libre, mais avec beaucoup de moyens. Et c'est une radio qui sortait tout le temps. On faisait des animations à Pierre Larigot et.
Oui, voilà. C'était joyeux. C'était là aussi, il y avait un côté famille. Peut-être vous avez trouvé un côté à la.
J'ai fait des matinales en plus tout de suite.
Ah quoi. Oui.
Je faisais le tistoff avec les journalistes.
D'accord.
Ouais, j'y étais à 4h du matin, à 6h je vous.
Oui, les matinales, le rythme est rude. Hein. Ouais.
Oui, ça c'était.
Oui, mais c'était en même temps, c'est dense, mais on n'a pas l'impression de travailler forcément. Enfin,
pas
il y a quelque chose. Voilà.
Non, c'était devenu un loisir.
Oui.
Et à force de sortir avec la radio, j'ai fait beaucoup de podiums. Et après, Europe 2 a repris la fréquence.
Oui.
Et moi, je me suis dit, il faut que je continue là-dedans, il faut que je fasse du terrain.
Oui.
Donc, je me suis spécialisée dans les mariages, dans les anniversaires, dans plein de choses.
Oui.
J'étais DJ aussi à un moment donné, donc voilà.
Oui,
je me suis vraiment éclatée en plus.
Ah ben bah oui, je vois. Oui, c'était. Vous étiez dans des lieux, vous apportiez du plaisir quoi aux gens, des lieux.
C'est ça. Et vu mes débuts, j'étais un peu fière de moi quand même parce que.
Ah ben je comprends, oui, parce que c'était plutôt la discipline.
J'ai tout appris sur le terrain.
Oui, oui.
J'ai tout appris sur le terrain.
Mais vous avez d'ailleurs une voix très jeune.
Radiophonique.
Et puis je trouve vraiment j'ai regardé parce qu'il y a votre âge sur la fille, j'ai regardé à deux fois, vous avez une voix très jeune.
Oui, mais je l'ai beaucoup travaillé parce que j'ai aussi fait des doublages chez Arte.
Ah.
Et j'ai beaucoup travaillé
ah
ma
oui,
voix.
Ah oui, mais alors, ah, vous l'avez travaillé. Bah alors, comme quoi, ça sert de travailler sa voix, parce que vous avez... oui, c'est étonnant, hein. Oui, j'ai regardé à deux fois, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, ils sont
mais
trompés.
Si.
Ah ben si, alors. C'est pour ça, oui, d'accord.
Ouais. Oui. Je suis une mamie, mais moderne.
Comment ?
Je suis une mamie moderne.
mais là, on entend d'ailleurs quand vous parlez, vous vous animez. Il y a quelque chose d'une vitalité très forte chez vous, et certainement au vu de votre histoire et après d'avoir été.
J'ai eu la chance d'avoir de la volonté, puis j'étais hyperactive.
D'accord. Oui, ça a donc, été votre moteur. Enfin, c'était votre façon complet. De. Oui.
Ouais. Et bien sûr la.
Et là c'est l'angoisse qui prend le dessus, c'est-à-dire que ça vous dévore là.
Ben oui, ça fait 2 ans, vous me direz, mais.
Oui, mais ça renvoie.
La première année est dure, mais il y a un manque affectif grave.
Ben ça renvoie à la perte. Enfin, c'est déjà il y a le temps du deuil et comme le dit une auditrice prénommée Tina, c'est très long de faire le deuil d'un ami.
Oui, parce que je suis hypersensible, donc forcément.
Oui. Ça contribue. Et puis on voit aussi, la place du lien. Alors elle ajoute le temps atténue le chagrin. Croyez-moi, dit-elle, je vous prends dans mes bras et elle dit heureux anniversaire d'avance. Alors là, c'est vrai que oui, ça va venir vite. Mais enfin voilà, elle vous embrasse bien fort, Tina.
Merci, Tina.
Il y a aussi, vous savez, un deuil nous renvoie à d'autres deuils qui n'ont pas pu être faits ou exprimés, ou en tout cas, même si cela a été, ça les réveille. Ça renvoie à toutes les abandons, à toutes les pertes dans notre vie. Donc,
d'ailleurs, j'ai deux amis qui sont partis pendant le Covid.
Oui.
Là, ça fait un peu vide aussi. Hein. Ça crée un vide.
Ben bien sûr, bien sûr.
Et on a beau s'investir dans le travail.
Oui.
Bon, je suis un petit peu créatrice, je fais quelques tableaux, je fais beaucoup de choses manuelles, mais.
Mais pour créer, il faut quand même être bien. Là, à un moment, l'angoisse vous. Oui, enfin, pas trop mal en tout cas. Là, vous n'arrivez même plus à vous alimenter parce que ce qui peut faire ça, hein, quand on est terriblement angoissé. Mais le problème, c'est si vous avez perdu 10 kilos en un mois, ça va pas du tout, là.
Non, je sais.
Donc, je pense qu'il vaut mieux, quitte là à aller. Et vous pouvez quand même, à ce moment-là, peut-être demander une lettre à votre médecin. Vous lui avez dit que les psychiatres que vous aviez contactés n'étaient pas disponibles ?
Non, mais j'ai l'intention d'aller le voir demain.
Voilà, qu'il vous fasse un peu une lettre en disant, écoutez, parce que lui peut même, voyez, vous orienter vers quelqu'un, peut faire une lettre de recommandation. Mm-hmm. Certainement qu'il faut revoir votre traitement aussi, qui n'agit plus. Ou en tout cas, peut-être moins miser sur le côté antidépresseur, mais plus sur le versant angoisse. Enfin, vous voyez, il faut revoir ça. Voir si vous. Parce que je trouve que vous avez une voix tonique, hein. Mais êtes, c'est l'angoisse qui vous noue, là.
Oui, c'est ça.
Parce que la journée, vous arrivez à dormir
Ben, je dors par étapes, mais je suis beaucoup dans la nature. Je fais beaucoup de balades, je fais 10 pas par jour. Et
oui, ça vous aide d'être dehors, dans la nature un peu, d'accord.
Oui,
c'est là que vous n'êtes pas, c'est ça, vous ne restez pas au fond de votre lit, quoi. Vous pouvez
non,
pas.
Non.
Donc, comme vous êtes angoissée, oui, vous avez. Bon, ça c'est très bien déjà d'aller marcher dans la nature, mais enfin le problème c'est que vous pouvez pas rester sans.
Et puis de temps en temps, je vais dans un ranch qui est pas très très loin et. Là, j'ai une flopée de chevaux et de poneys que je caresse de long en large. Les chevaux font énormément de bien aussi.
Ah, oh, bah alors ça, c'est merveilleux, oui.
Oui.
Et puis alors, ils sont tellement sensibles, ils sentent beaucoup, ils absorbent beaucoup, oui.
Je m'étais demandé si j'allais pas dormir dans un box.
Attention fait, quand même, hein, parce qu'ils seraient peut-être pas contents, même s'ils vous aiment bien.
C'est des rats.
Et qui ça Ah, mais même s'ils sentent que vous avez vraiment besoin de réconfort, ils seraient peut-être pas contents hein, que vous preniez leur box. Non, il vaut mieux que vous dormiez peut-être dans un temps qu'on prenne un peu soin de vous, parce que c'est ça, vous avez besoin aussi. Si vous avez perdu deux amis pendant le Covid, cet ami cher là, de ouais. cette façon tragique, et ça renvoie, vous voyez, il y a à la fois le chagrin et la culpabilité. Et c'est ça, c'est un cocktail... explosif. C'est-à-dire, parce que vous savez, en fait, Sarah, vous, quand bien même, vous dites qu'est-ce que j'aurais pu faire, vous savez, il y a parfois, on ne peut rien faire.
Ouais.
On ne peut rien faire parce qu'il y a, quelque chose qui prend le pas, qui prend le dessus et vous ne pouvez pas, vous voyez.
Ouais, mais un suicide, je crois que c'est plus lourd à porter qu'un accident.
Ben, c'est toujours très lourd à porter pour ceux qui restent, parce qu'il y a ces questions et se dire j'ai pas vu venir, qu'est-ce que j'aurais pu faire, voyez, c'est mais vous savez, dans un suicide, c'est pour en arriver à cet acte là qui est vraiment la détresse absolue. Comment?
Ouais, je vous ai interrompu. Il y a des questions auxquelles on n'aura jamais la réponse.
Mais non, parce que souvent la personne elle-même ne l'a pas la réponse. Sinon, si elle prenait le temps d'aller parler de ce qui l'amène à penser qu'il n'y a plus que la mort pour la délivrer, parce que parfois la mort est envisagée comme cela, enfin, ou en tout cas quelque chose comme, c'est pas tant la mort d'ailleurs, c'est je veux plus souffrir souvent.
Ouais, mais j'aurais préféré qu'il me laisse une lettre.
Ben oui, mais bon, il l'a pas fait.
Ça aurait peut-être rassasié.
Oui, et encore, vous savez. Oui, pour ceux qui restent, mais encore, vous savez, parce que le suicide, c'est il y a toujours...
C'est brutal, je crois. Hein. C'est quelque chose de brutal.
Oui, mais souvent, il y a... Comment dire, le présent, il sert de détonateur à des événements du passé qui ressurgissent et qui envahissent tout. Alors là, il y avait des troubles bipolaires, enfin bon, voilà.
Oui, et puis il était aussi victime de la mort de sa mère. Hein.
Il était en deuil.
Ah, il était en deuil.
Il était en deuil. Vous, en tout cas, ça vous ramène aussi cette perte brutale, ça réveille aussi ça, l'abandon. Parce qu'un suicide, c'est aussi ça. Il y a quelque chose de...
Oui,
il part, mais vous pouvez vous sentir abandonné.
Oui,
aussi.
Surtout que j'ai mis 20 ans à trouver ma mère, et quand je l'ai retrouvée, elle était déjà en fin de vie, sclérose en plaques.
Ouais, c'est dur.
Donc, ouais.
Mais au moment où vous la retrouvez, vous la perdez à nouveau, quoi.
À nouveau, ouais. Moi, je l'ai surtout cherché pour avoir des explications, quoi. J'avais pardonné depuis longtemps parce que je pense qu'elle a eu des problèmes. Sinon,
elle n'a pas pu vous parler, vous dire quelle était son histoire.
Non, elle était en fin de vie. Elle parlait plus. Le cerveau était déjà touché. En revanche, je me demande pourquoi j'ai jamais cherché mon père.
C'est une bonne question. Mais oui, il aurait fallu qu'elle. C'est plus compliqué aussi. Hein. Vous savez, dans tous les cas, c'est la mère qu'on recherche en premier parce qu'il peut y avoir une trace, quelque chose dans un dossier. Le père, hein, par définition, c'est la mère qui fait exister le père en parlant de lui.
Oui, en fait, je l'ai rendu coupable de mon abandon, plus que ma mère.
D'accord. Parce sans connaître votre histoire.
Bah non, je la connais toujours pas.
Vous la connaissez
pas. Alors, il m'est arrivé souvent d'écrire et de me faire mes films, quoi.
Bah, comme vous dites, vos films, c'est aussi vous construire, essayer de vous approprier, réapproprier votre histoire. C'est aussi ce qui vous a aidé à tenir, certainement. Vous voyez, c'est là que vous vous êtes construit. C'est compliqué de se construire sur du vide. Donc, vous vous êtes construit un peu votre roman à vous, familial. Oui. Et le fait que votre mère, et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand les femmes se retrouvent à devoir confier un tout petit bébé, c'est que soit elles ont eu une histoire personnelle qui ne leur permet pas de devenir, de pouvoir être mère, s'occuper d'un enfant, soit parce que les conditions dans lesquelles est né cet enfant, malheureusement, étaient source de réprobation, voire de disgrâce, enfin... Il y a souvent tout un contexte.
J'ai quand même eu un très beau cadeau. J'ai quand même eu un très beau cadeau parce que je m'étais juré que même si j'en avais qu'un, je l'abandonnerai jamais. Et j'ai un fils extraordinaire.
Ah, ouais.
Et ouais. Quand même.
Vous, vous êtes lancée dans cette aventure.
Et j'avais peur de ne pas être maternelle, justement, oui, parce que j'avais aucune base, aucun repère.
Oui.
Et je l'ai réussi. En plus, il est beau, intelligent.
Bon, oui.
C'est pas un Mozart, mais voilà.
C'est chouette.
Je lui ai donné toute l'énergie. Je l'ai allaité 9 mois, vous vous rendez compte?
Aujourd'hui, je vois, il y a des jeunes femmes qui allaitent leur bébé presque jusqu'à 2 ans, voire au-delà. Mais neuf mois.
Ça lui a donné des forces, hein.
Mais bien sûr.
Il n'a jamais eu de problème de santé, hein.
Oui.
Non, il va très, très bien.
Et apparemment, vous en parlez avec, avec délice de cette période-là. Oui.
Ouais. C'est le plus beau cadeau que j'ai.
Il a quel âge aujourd'hui, votre fils?
47.
47. Ouais.
J'avais 22, faites le calcul.
Oui. Vous étiez toute jeune hein, quand vous êtes lancée.
Oui, mais justement parce que je voulais être mère et enfanter et pas larguer.
Pas larguer le bébé?
Oui.
Oui. Mais il y a quand même chez vous un instinct de vie, une force de vie. On a dû souvent vous le dire, enfin...
Oui, je suis quelqu'un de très volontaire, beaucoup de dynamisme, solaire. On m'a toujours dit que j'étais solaire, voilà, que j'étais faite pour bosser dans le public. Voilà, moi, j'ai jamais eu peur sur les podiums. Au début, bien sûr, on a le trac, mais à force, voilà. Puis, on avait toujours des cadeaux pour les gens, donc on les voyait repartir avec le sourire. Tout ça, ça me nourrissait. Hein.
Mais je comprends. Et puis en plus, voilà, vous qui vous dites petit bébé de 7 jours qui se retrouve en orphelinat, après on entend votre voix à la radio, vous montez sur les podiums, on vous voit, vous prenez votre place pleinement aussi dans la vie. Donc, mais je pense que au-delà du chagrin et causé par la perte de votre ami et dans ces circonstances dramatiques, un suicide, c'est évidemment terrible pour la personne qui en arrive à commettre ce geste-là et pour ceux qui restent, parce que ça reste une énigme. Vous savez, parfois même avec une lettre. Enfin, il y a quelque chose de très énigmatique et l'esprit n'aime pas ne pas comprendre. C'est très angoissant aussi. Mmh. Vous voyez, ça angoisse. Et puis, évidemment, ça réveille, comme je vous le disais, beaucoup de...
De choses du passé.
Mais oui. Et puis tout ce qui est lié à l'abandon aussi, à la perte, à l'abandon. Mmh. Et votre histoire en est émaillée, Sarah.
Oui, totalement.
Voyez, donc, pour que vous soyez, vous, à votre tour, plongé dans une détresse si profonde, finalement. Et presque quelque chose, vous voyez, d'un peu régressif, c'est-à-dire comme un petit bébé qui voudrait plus nourrir, enfin, qui refuse, vous voyez. Il y a quelque chose de, donc un peu très archaïque, certainement, qui surgit, même si vous vous exprimez, même si parfois il y a des moments où on est rattrapé par quelque chose, en fait, de très archaïque et de très puissant qui s'exprime. Donc, et même, je trouve que dans votre question ce soir, le fait de dire, ben oui, il faudrait bien que je sois hospitalisée, parce que je peux pas rester comme ça. Vous voyez, il y a votre désir qui est là, votre volonté d'aller de l'avant.
Oui, de me retrouver.
Mais oui, parce que vous dites pas, oui, je suis mal. Vous n'êtes pas dans une plainte. Vous êtes déjà dans me dire, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester à souffrir autant.
J'ai envie de m'en sortir.
Donc, vous allez vous en sortir. Oui.
Caroline, vous êtes extraordinaire.
Moi, non, pas du tout.
Vous m'avez fait monter quelques marches de l'escalier, là. Et je voulais vraiment vous féliciter. D'ailleurs, j'avais une suggestion à faire si jamais vous le faites à l'occasion.
Oui.
Moi, je suis addict à RTL de 6h du matin à minuit et demi. mais c'est vrai.
Vous faites toute la grille.
Mais vous êtes un peu ma famille en même temps. Hein.
Oui.
Vous êtes aussi ma famille. Ouais. J'ai même dit à Paul tout à l'heure qu'il avait une voix tuable et que ça serait bien qu'un jour il ait une émission.
Comme Benjamin Biolay? Ah oui, ça serait...
Alors, le summum, c'est Éric Jean-Jean.
Ah!
Ah là là! Il a une manière de nous subtiliser le temps. Il vit son métier avec
passion. C'est un passionné, Éric.
Ouais.
Et en plus, il est beau gosse, hein. Il a beaucoup de charme. Ah bah oui.
Ouais, mais ça me tient à rien, il est marié. Il fait de la moto.
Mais vous savez beaucoup de choses.
Ah ben il en parle de temps en temps, hein. J'ai
oui,
pas
oui,
téléphoné.
Oui, oui, oui. Et non, il a une femme charmante.
Oui, oui, non, oui. Mais il est beaucoup trop jeune pour moi. On a au moins 20 ans d'écart.
Mais je l'oublie, vous voyez. Je l'oublie en vous écoutant. Et en tout cas, c'est ce que disent les gens. Il y a Cathy, elle dit, mais franchement, mais quel parcours, quelle histoire. On sent que vous avez plein de ressources, plein de force et de courage pour la suite. C'est ce que dit aussi Bob White. Franchement, j'ai beaucoup de respect, dit Bob, pour le chemin que vous avez effectué, Sarah. Votre amie avait de la chance d'avoir quelqu'un comme vous à ses côtés, qui fait preuve d'une force exceptionnelle. Mais oui, on n'est pas tous lotis pareil. Vous voyez, c'est pas toujours lié à notre histoire. Et je pense que vous lui avez... Il a raison, Bob, de vous dire cela. Parce que je pense qu'on sent que vous avez aussi, de par votre histoire, de par votre personnalité, cette capacité d'entendre aussi la souffrance, mais aussi à remonter. Et je pense que votre ami, comme vous dites d'ailleurs, vous aviez l'habitude de vous écouter en cas de blues. Il savait que vous étiez là. Et je pense que vous lui avez, mutuellement, vous vous êtes fait du bien et qu'il ne faut pas vous en vouloir. Voyez, là, c'est que à ce moment-là, peut-être que toute façon, quand bien même vous, il y a des moments où on ne peut rien faire, et c'est ça qui est très difficile à accepter, mais que il avait son propre chemin à faire, et vous avez le vôtre à continuer. Ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu ensemble, et que aujourd'hui, c'est de vous dont il faut prendre soin. Et comme vous le dites, d'ailleurs, vous êtes déjà envisagé les solutions, et je pense, voyez avec votre médecin traitant qui vous fasse une lettre, c'est toujours mieux, de recommandation. Allez à l'hôpital, alors, ou alors faudrait que vous passiez directement par quelqu'un, parce que ça m'ennuie un peu, enfin ça dépend, parfois les urgences, ça dépend où on se trouve, mais vous passiez beaucoup de temps aux urgences, voyez, avant de voir un médecin psychiatre. C'est ça le problème, les urgences médicales.
À moins que j'aille voir une nutritionniste, c'est peut-être ça la solution.
Non.
Non.
Enfin, peut-être pour la suite, mais là, à vous entendre, c'est l'angoisse qui vous empêche de manger.
Oui, c'est ça.
Voyez, c'est que vous êtes mal et vous êtes noué. Donc la nutritionniste peut vous aider dans un second temps, ça peut, voir comment, pour nourrir, reprendre des forces. Mais là, c'est plus une détresse et un mal-être qui fait que ça se répercute sur votre alimentation. Donc déjà, changer peut-être le traitement, c'est possible de voir. Et si vraiment vous vous sentez trop mal et trop oppressé, il peut y avoir un petit temps d'hospitalisation qui vous permet, vous voyez, parce qu'à ce moment-là, on peut le mettre en perfusion, ça agit plus vite, de reprendre des forces. D'accord. Et en expliquant, je crois qu'il faut aussi, comme vous l'avez fait là, avec l'équipe, en disant, moi, l'hospitalisation, je redoute parce que c'est l'enfermement et j'ai très peur de ça, étant donné mon histoire. Mais vous savez, quand on déjà, c'est vous qui demandez l'hospitalisation, ça change tout. Vous voyez, c'est vous qui l'a demandé, donc vous pouvez aussi l'arrêter.
C'est un genre de SOS, quoi.
Bah oui, c'est ça. Oui. Donc, vous n'êtes pas hospitalisé à la demande d'un tiers et encore moins un placement d'office. C'est vous qui venez demander de l'aide. Donc là, l'équipe peut apprécier et voir avec vous ce qu'ils peuvent vous proposer. Quitte à vous mettre un temps, s'ils ont un hôpital de jour, voyez, pour que vous soyez un peu entouré, bien soutenu, le temps de traverser cette crise aiguë. Parce que ça va passer, mais c'est le temps de passer ça. Là, vous êtes dans une phase aiguë. Et c'est cette phase-là.
Dans la reconstruction.
Oui, mais... il faut vous occuper de vous et de cette phase aiguë de souffrance.
Eh bien, vous êtes ma béquille et mon allié.
Alors, vous voyez, Cathy, une autre Cathy dit, nous avons eu un voisin qui, a tenté de se suicider, qui, heureusement, est aujourd'hui en vie. Cathy nous dit, ce voisin m'a dit plus tard que dans ces moments-là, on n'est plus soi-même. On ne voit, on n'entend plus rien. Et vous n'auriez pas pu l'aider, dit-elle. Et elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est la souffrance qui envahit tout. Et quand bien même on se dit, j'aurais pu avoir des paroles, à un moment, la personne n'est plus dans son état normal, elle n'est plus tout à fait elle-même. Même si elle est consciente, pas délirante, vous voyez, ça n'a rien à voir, mais la souffrance a submergé tout.
Oui, je pense que la maîtrise, il n'y en a plus, et c'est comme une parenthèse, je crois que c'est une fraction de seconde.
parfois, ça peut être... Alors, il y a tous les cas de figure. Hein. Il y en a qu'on peut... où la personne en parle, l'évoque, et c'est toujours à prendre au sérieux. Et où là, on peut, effectivement, si elle le fait, il est important à l'entourage l'aider à consulter. Et puis, il y a des personnes où, comme vous dites, on parle même de raptus suicidaire. Il y a des personnes où ça bascule d'un moment à l'autre.
Ouais, c'est ça.
Mais sur un état déjà qui était là, hein, quand même, vous voyez, mais pas exprimé.
Oui, c'est un passé chargé. Merci beaucoup, Caroline.
Ah, il y a Paul, peut-être. Oh, mais ne vous inquiétez pas, vous avez pleinement votre place. C'est gentil de penser aux autres. Mais justement, peut-être avant les infos de minuit, quelques messages, Paul, qui sont arrivés pour Sarah.
Le valet de cœur qui dit « Votre ami n'a pas voulu vous faire porter la charge de sa décision. Ne culpabilisez pas. Vous n'auriez pas pu la contrer. Il faut une grande détermination pour faire ce qu'il a fait tout en vous protégeant. Il tenait vraiment à vous en agissant de la sorte. Gardez cette certitude comme émotion première et prenez vraiment soin de vous. » C'est ce qu'il voudrait, sans aucun doute. Et puis, il y a plusieurs personnes. Je vois Annie qui dit que vous êtes... qui vous adore. Elle dit qu'elle est dans Vital. Et puis, Jeanne-Marie aussi, vous êtes géniale. Et moi, je suis comme vous. J'adore RTL.
Ah, mais c'est bien.
Ah, mais il vaut mieux être addict à RTL qu'à l'alcool ou à n'importe quoi d'autre. Hein.
C'est sûr.
Mais j'ai pas honte de dire addict. Hein. D'ailleurs, vous savez...
Ça ne vous fait pas de mal.
Non, il y a des auditeurs qui vous écoutent quand même depuis de longues années.
Oui.
Parce que leurs parents...